Ce soir, donc, on va aborder le problème des traitements, tout du moins la prise en charge des patients maniaco-dépressifs, et plus particulièrement dans les phases d'excitation maniaque. Mais avant, j'aimerais quand même préciser deux, trois petits points. Me baladant de temps en temps sur le forum, donc j'ai accès quand même à certaines préoccupations de personnes qui sont directement concernées. Et je voudrais préciser trois points qui me paraissent importants. Premièrement, en ce qui concerne les antidépresseurs, et là je m'adresse plus particulièrement à PAD, je crois qu'on n'est pas ici pour polémiquer, et les antidépresseurs rendent un service qui est immense. Bon, il est certain que, et là on a insisté sur le fait qu'il y avait une surconsommation de médicaments, le problème de la surconsommation de médicaments n'est pas spécifique, je dirais, des antidépresseurs. Elle concerne bien sûr les médicaments tranquillisants, elle concerne les hypnotiques, elle ne concerne pas encore les thymorégulateurs, mais c'est quelque chose qui pourrait venir. Hein, je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. Et elle concerne aussi les antibiotiques, elle concerne les produits pour l'estomac, pour la constipation. Donc je dirais que les Français sont des gros consommateurs de médicaments. Donc ce n'est pas, je dirais, un problème spécifique aux antidépresseurs. Alors, ces antidépresseurs, ils sont largement prescrits. J'avais dit 53 millions et en fin de compte, je m'étais trompé puisque les nouveaux chiffres, maintenant, c'est 62 millions grâce à vos interventions. Et 62 millions, c'est sûr que c'est énorme. C'est énorme de se dire qu'il y a 62 millions de boîtes d'antidépresseurs qui sont consommées en France chaque année. Et peut-être que l'année prochaine, il y en aura 70 millions vu comment c'est parti. Alors, ces antidépresseurs, ils sont peut-être prescrits chez certaines personnes de manière, adaptée, et puis chez d'autres personnes de manière un peu excessive, et que toutes les dépressions ne passent pas par un traitement antidépresseur. Il y a des personnes qui font des états dépressifs en réaction, je dirais, à des événements ou sur des personnalités qui sont fragiles, et que la prise en charge, elle est avant tout psychologique, et que la psychothérapie a toute son importance dans ce cas-là. Et puis dans d'autres cas, il est certain que le médicament antidépresseur va trouver sa place. En sachant que toutes ces pathologies, que ce soit le trouble bipolaire ou que ce soit le trouble dépressif, ce sont des pathologies qui sont multidéterminées. Qu'est-ce que ça veut dire multidéterminées? Ça veut dire qu'elles sont déterminées par un ensemble de facteurs. Il y a des facteurs qui sont liés à la génétique chez certains, il y a des facteurs qui sont liés à la personnalité, au vécu de la personne, à son histoire, à ses antécédents personnels, à ce qu'il a vécu durant son enfance, à en particulier la notion d'abandon, de carence affective, de sévices, d'agression sexuelle, qui l'ont considérablement fragilisé. Et donc, bien sûr, ce sont des facteurs qui de fragilisation. Et puis, des événements plus contemporains, plus récents, événements qui vont donc déclencher, précipiter en quelque sorte, l'apparition du trouble. Alors, chez certaines personnes, la prise en charge va reposer essentiellement sur un traitement antidépresseur, mais avec en plus un traitement d'accompagnement, un soutien, une thérapie éventuellement interpersonnelle. Et puis chez d'autres personnes, le traitement antidépresseur ne va pas faire grand-chose parce qu'on se retrouve face à quelqu'un qui a une personnalité dépressive, qui est déprimé depuis très longtemps et sur lequel le médicament ne va pas avoir beaucoup d'effet, si ce n'est d'apporter un certain confort. Mais je dirais que chaque cas est véritablement particulier. Alors le deuxième point que je voulais aborder concernant les antidépresseurs, c'est la polémique actuelle concernant est-ce que les antidépresseurs peuvent favoriser le suicide. Donc ça aussi, c'est une question qui fait actuellement l'objet de débats aux États-Unis. Il y a eu pas mal de publications sur ce point et qui mettaient en avant le fait que les IRS, c'est-à-dire les inhibiteurs de recapture de la sérotonine, c'est une nouvelle classe de médicaments, représentée par le Prozac, par la paroxétine, c'est-à-dire le Deroxate, par le Zoloft, par le Seroprame commercialisé, donc la dénomination commune internationale est le citalopramme, par le Floxifral, qui est la fluvoxamine, eh bien ces IRS auraient été directement attaqués et on leur aurait reproché un risque de passage à l'acte. Alors là encore, il faut être très très prudent quand on analyse la littérature, parce qu'on n'a pas de données scientifiques. Il y a une large étude qui a été effectuée, qui a été très médiatisée, et je dirais que toutes les personnes avaient accès ça passait par le maigre, c'est-à-dire que chaque personne qui avait été directement concernée par un problème lié aux antidépresseurs envoyait un mail. Donc il y avait une sélection avec un biais méthodologique manifeste. Et donc il y a eu comme ça un certain nombre de personnes qui ont reproché à ces médicaments ce risque de passage à l'acte. Néanmoins, quand on reprend la littérature, et après, aux États-Unis, en Angleterre, il y a une grande étude qui a été menée, et cette grande étude, elle a tenté d'évaluer quel était le risque suicidaire par rapport de la paroxétine, donc du duroxate, par rapport à deux autres antidépresseurs. Et ils n'ont pas relevé de différence, ils n'ont relevé aucune différence. Les seules observations qui avaient été montrées, c'est sûr qu'il y a un risque, il y a un risque suicidaire qui survient, je dirais, pendant les 15 premiers jours de traitement. Et je dirais en particulier du 1er au 9e jour de traitement. C'est lié à quoi? C'est lié au fait que le médicament n'a pas eu encore le temps d'agir. Et donc là, il y a une période de fragilisation. Et que le deuxième point, c'est que durant cette période, peut-être que le patient retrouve une certaine énergie. Et je dirais qu'il retrouve donc une certaine tonicité avant que l'humeur n'ait été correctement traitée. Bon, ça, c'est un point à mentionner. Mais tout ça pour dire que les données qu'on a actuellement ne font pas paraître de manière significative un risque suicidaire lié au traitement. Le suicide, il est directement lié à la dépression. Il est directement lié à la dépression. Il est fréquent, il est très fréquent. Les chiffres qu'on a actuellement permettent d'évaluer à peu près à 80%, 70 à 80% le pourcentage de déprimés parmi des personnes qui se suicident. Et le chiffre de 12 000 est celui qui est retenu actuellement, en sachant que ce taux de suicide de 12 000 est en dessous de la réalité parce qu'il ne prend pas en considération d'autres types de suicides qui sont plus chroniques, où les gens se laissent aller, se laissent mourir, s'alcoolisent, surconsomment du tabac. En fait, donc il y a des conduites suicidaires chroniques, je dirais, qui sont parallèles et qui témoignent très souvent aussi de problèmes dépressifs. Autre point important, c'est est-ce que les antidépresseurs peuvent entretenir la maladie maniaco-dépressive ou le trouble bipolaire? Et là, ça va servir un petit peu de transition au thème que je vais aborder aujourd'hui. Alors, là encore, on dit les antidépresseurs, eh bien, il ne faut pas les prescrire chez des patients qui présentent un trouble maniaco-dépressif. Alors là encore, il y a des interventions de PAD qui sont assez fréquentes, mais je le rejoins complètement, c'est-à-dire que on est dans des abus d'utilisation et parfois la prescription, je dirais, mal évaluée d'un antidépresseur peut faire flamber quelqu'un qui a un trouble patent. Bon, qui a un trouble patent, et on a un certain nombre d'exemples comme ça de personnes qui sont rentrées dans la maladie du fait d'une prescription inadaptée d'un médicament antidépresseur. Mais tous les antidépresseurs ne font pas virer l'humeur. Et il y a certains antidépresseurs qui présentent un risque beaucoup plus important que d'autres, en particulier les tricycliques, c'est-à-dire l'anafranil, le tofranil, le laroxyl, le ludiomil, le pertofran, le défanil, bon, qui sont, je dirais, les seuls rescapés des antidépresseurs aujourd'hui. Ce sont des médicaments qui peuvent faire virer l'humeur, et le risque, je dirais, il est évalué à 10%, ce qui est énorme. Alors, il y a des études qui ont été effectuées récemment, et il y a une étude parue dans l'American Journal de Psychiatrie qui permet de relativiser un petit peu ce risque en montrant que lors d'un traitement d'un état dépressif chez quelqu'un qui présente un trouble bipolaire, eh bien, on retrouve un risque de 4% avec les antidépresseurs de nouvelle génération, les IRS. Et que ce risque, il est identique à celui avec le placebo. Placebo qui, je vous le rappelle, est un produit qui est dénué d'action pharmacologique. Bon. Même s'il a une action psychologique, puisque, là encore, on a beaucoup de patients qui s'améliorent sous placebo, c'est-à-dire sous médicaments qui n'ont aucun effet thérapeutique. Alors, cette étude, elle est intéressante parce que, cette analyse d'études, parce que ça regroupe un certain nombre d'études, elle est intéressante parce que elle montre que les tricycliques font virer l'humeur, qu'on retrouve 10%, mais qu'en revanche, on ne relève pas de différence significative et que ça peut être lié à l'évolution naturelle de la maladie. Alors, il n'empêche, alors là, je vais peut-être complètement vous confusionner, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, dans les recommandations qui sont données, hein, et là, on me présente avec l'étape de la loi sous la forme de Moïse, mais il n'empêche qu'avec ces textes de recommandation, il est recommandé de ne pas prêter chez quelqu'un qui présente un trouble bipolaire. Au même titre qu'il est recommandé, j'ai lu un texte aujourd'hui que j'ai reçu sur les neuroleptiques, il est recommandé de ne pas prescrire de neuroleptiques parce que les neuroleptiques ont un rôle dépressogène. Quand je parle de neuroleptiques, je fais référence à l'aldol, au clopixol, au fluoxol, à tous ces médicaments d'ancienne génération qui peuvent favoriser des états dépressifs. Donc il est recommandé. Néanmoins, dans des situations extrêmes, on ne peut pas faire autrement. Hein. Et ça, on va en parler, je dirais, ce soir, parce que c'est le sujet de ce soir. Donc, la prise en charge des patients qui présentent un état d'excitation maniaque et qui présentent un trouble, bien sûr, bipolaire, comment on peut les traiter? Et cela pose énormément de problèmes. Et puis, avant de commencer, je voudrais aussi dire un petit point, parce que j'étais un peu surpris, et puis j'ai pas très bien vécu certaines choses, donc je le dis ouvertement, parce que c'est toujours la carte de la transparence, c'est que notre objectif ici, c'est de donner une information générale sur la maladie, et on est un certain nombre à être convaincus que cette information, elle est fondamentale. Elle est fondamentale à plusieurs niveaux, elle est fondamentale pour le patient, elle est fondamentale pour son entourage familial, pour comprendre à quoi correspond un trouble, à quoi correspond un traitement, quelle est la signification de ce trouble, quelles sont les conséquences possibles de ce trouble, quels sont les risques d'un arrêt de traitement, quelle attitude avoir. Bon. Et donc, on est tous convaincus de la nécessité de cette information, et les derniers travaux qui ont été publiés montrent que lorsqu'on donne une information, et lorsqu'on va même un petit peu plus loin, et lorsqu'on entraîne les patients à reconnaître précocement leurs symptômes, lorsqu'on les aide à bien gérer leur vie, à contrôler, je dirais, certains facteurs de stress, à respecter les règles d'hygiène de vie, on s'aperçoit qu'il y a une diminution du nombre de récidives dépressives, maniaques, il y a une diminution du nombre d'hospitalisations, il y a une meilleure observance et il y a une qualité de vie aussi qui s'améliore, avec surtout un meilleur vécu de la maladie, parce que il y a encore quelques années, le sentiment de honte par rapport à la dépression, il était toujours là. Et lorsqu'on arrive à aborder la dépression sous un autre angle, et à ne plus voir un déprimé de manière négative, mais en manifestant quand même une certaine admiration par rapport à un déprimé, peut-être que le mot est excessif, mais c'est celui qu'on utilise, et je ne suis pas le seul à l'utiliser, puisque Louis Bertagna est quelqu'un qui régulièrement utilise ce terme quand il parle de déprimé. Donc je pourrais dire que j'ai tout appris de lui. Eh bien, je dirais que cette perception donc, va permettre donc une autre vision de la maladie. Et c'est le rôle qu'on s'est attribué aujourd'hui, c'est d'apporter une information générale, ce que disait tout à l'heure Juliette, on est engagé dans quelque chose. Alors, cela dit, on n'est pas meilleur que les autres. On n'est pas meilleur que les autres parce que lorsqu'on se retrouve avec la casquette de psychiatre, quand on prend en charge un patient, on est aussi confronté à des échecs parfois qui sont dramatiques. Je dirais que l'approche qu'on peut avoir du patient, elle est différente aujourd'hui parce qu'on donne une information, mais globalement, elle sera identique à tous les psychiatres qui prennent en charge des patients, le plus souvent dans l'ombre. Et je dirais que ces psychiatres, eh bien, quand vous avez un psychiatre qui vous prend en charge, je dirais qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause ses compétences. La seule chose que je peux dire aujourd'hui, là on a une position peut-être un petit peu radicale avec Henri Cuche et avec d'autres personnes, c'est que c'est vrai que lorsque le psychiatre refuse de recevoir la famille et de donner des informations, on est en droit de s'interroger, hein, sur son fonctionnement et savoir s'il n'y aurait pas lieu de changer de psychiatre. Mais pour en revenir à notre niveau de compétence, il est identique aux autres, c'est-à-dire qu'on n'est pas meilleur que les autres. Et je le dis parce qu'il y a beaucoup de personnes qui demandent des rendez-vous avec moi-même. et auxquelles, bien sûr, on ne peut pas répondre pensant qu'on va donner la solution. La solution, on essaie de la donner au cours de ces réunions parce qu'on apporte cette information et on y croit vraiment. Et je pense qu'on ne peut pas laisser des personnes dans l'ignorance. Mais en termes de médecins, de soignants, eh bien, on est tous logés à la même enseigne. Ça, je voulais donner cette précision parce que parfois, on a comme ça une vision un petit peu excessive et on a tendance à nous mettre sur un piédestal alors qu'il n'y a aucune raison de nous mettre sur ce piédestal et qu'on est confronté, qu'on a tous nos difficultés, je dirais, au plan de la prise en charge et des patients qui sont difficiles et qu'on n'arrive pas à bien contrôler. Alors, la prise en charge d'un maniaco-dépressif, elle est difficile, elle est très difficile. Dans un premier temps, je dirais que, et là, tout le monde le dira ici, personne ne va me contredire sur ce point, c'est que, on l'a à travers les témoignages, c'est qu'on a énormément de familles qui viennent nous voir et nous disent, mais comment accéder à des soins, comment lui faire comprendre qu'il a besoin de se faire soigner lorsqu'il est en phase d'excitation maniaque. Et je dirais que ça, c'est un réel problème. On a beaucoup de patients maniaques qui refusent les soins parce qu'ils n'ont pas conscience de leur maladie, ils n'ont pas eu accès à la formation, et même parfois, lorsqu'ils ont accès à cette information de manière, je dirais, hyper spécialisée, comme certains, eh bien, ils se croient plus forts que la maladie et ils considèrent qu'ils n'ont pas besoin d'aller voir un médecin, qu'ils peuvent très bien s'autogérer eux-mêmes. Donc je dirais que le problème numéro un, c'est l'accès aux soins. Le problème numéro un, c'est de demander à quelqu'un qui est en phase d'excitation maniaque de venir nous voir. Et là, c'est un aspect, je dirais, de la prise en charge qui est très difficile. C'est l'un des gros problèmes parce que, par définition, quand on est en phase d'excitation maniaque, on ne supporte pas les contraintes, on est en pleine forme, on n'a envie d'aller voir personne, et encore moins un psychiatre, parce qu'on n'a pas besoin d'aller voir un psychiatre, et on ne s'est jamais senti aussi bien, alors pourquoi aller voir un psychiatre? Et c'est le problème. Alors il est certain que lorsqu'on est dans un état d'hypomanie, ce n'est pas trop gênant, parce qu'il n'y a pas de dangerosité, mais lorsqu'on se retrouve en phase d'excitation maniaque caractérisée, lorsqu'on est persuadé d'avoir une fonction, une mission à accomplir, lorsqu'il y a une activité parfois délirante de persécution, eh bien, c'est beaucoup plus difficile. Et malheureusement, on est souvent obligé de faire intervenir la force publique pour hospitaliser la personne. Donc, ce que je disais à chaque fois, c'est que attraper un maniaque, c'est très difficile. Le traiter, c'est facile. C'est-à-dire que la grosse difficulté, c'est d'attraper le sujet qui est en phase d'excitation maniaque. Mais ça, il y aura tout un... Je dirais une séance qui va être consacrée à ce problème de la conduite à tenir face à un état aigu. Alors, la difficulté quand on se retrouve face à un état maniaque aussi, c'est de le traiter correctement. Et quand je dis le traiter correctement, c'est là aussi où il y a peut-être un décalage dans certains hôpitaux où on va matraquer le patient. C'est-à-dire que le patient va être traité classiquement par un traitement qui va être très efficace. Il va être très efficace, mais ce traitement va, en quelques jours, provoquer un abrasement total du sujet, avec souvent un syndrome extrapyramidal, avec une sédation très très importante. Et la personne, d'ailleurs, va lutter comme elle peut contre ces effets liés au traitement. Hein, il est courant de voir des patients à qui on donne des doses importantes de médicaments neuroleptiques sédatifs et qui vont réagir de manière paradoxale à ces médicaments parce qu'ils ne vont pas supporter, du fait de leur état d'excitation, d'être dans cet état de contrôle. Et donc ça aggrave parfois l'agitation. Il y a une réaction paradoxale qui est liée à leur refus de soins et refus de se sentir complètement sédaté par le traitement. Ça, c'est le premier point. Alors le deuxième point, c'est vrai que cette prescription qui est efficace et qui est très lourde, souvent elle va être maintenue pendant un certain temps. Et c'est là où on s'aperçoit que ce pilonnage, entre guillemets, c'est un terme que je n'ai jamais utilisé, mais ce pilonnage par des neuroleptiques d'ancienne génération va risquer de provoquer rapidement une inversion d'humeur et d'induire un état dépressif comme certains médicaments antidépresseurs peuvent provoquer, je dirais, un état d'excitation maniaque. Et là encore, je vais faire référence à Pat, parce qu'il a beaucoup d'idées, et je trouve que ces idées, elles sont assez extraordinaires. C'est qu'il compare, par exemple, le trouble maniaco-dépressif et le traitement par des neuroleptiques et des antidépresseurs à une plaque de tôle sur laquelle vous tapez. Alors, c'est sûr qu'il y a une bosse. Alors, vous allez taper sur la bosse. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous allez inverser la bosse. Donc, à la place d'avoir une bosse up, ben, ça va être une bosse down. Et c'est sûr que cette image, ben, elle correspond à une réalité. Hein. C'est-à-dire que c'est une image qu'on peut garder pour bien montrer ce que peuvent faire des traitements inadaptés chez quelqu'un qui va présenter une prédisposition particulière. Bon, ça, c'est le premier point, le deuxième point que je voulais mentionner. Alors, là encore, je vais me référer aux tables de la loi, à savoir ces textes de recommandation. C'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, les conseils qui sont donnés, c'est de prescrire d'emblée un thymorégulateur. D'emblée, un thymorégulateur pour traiter l'état d'excitation maniaque et même pour traiter aussi l'état dépressif. Bon. Donc, traiter l'état d'excitation maniaque. Alors, le problème, c'est qu'est-ce qu'un thymorégulateur? C'est aussi une grande question. C'est-à-dire que ce qui peut paraître étonnant, c'est que on parle donc de stabilisateur d'humeur, on parle de thymorégulateur, on parle de je ne sais pas quels sont les autres termes qui sont utilisés, régulateur d'humeur, thymorégulateur... normothymique, bon, eh bien, on ne sait pas à quoi ça correspond. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de réelle définition d'un thymorégulateur. Si, par exemple, je vous pose la question, est-ce que le dépakote est un thymorégulateur? Oui. Non, oui, donc il y a du oui, du non. Est-ce que le Zyprexa est un thymorégulateur? Non. Bon. Est-ce que le tégrétol est un thymorégulateur? Oui. Non, il y a des noms. Est-ce que le lithium est un thymorégulateur? Qui est-ce qui a dit non? Et pourquoi? C'est un métal. Est-ce que le lamictal est un thymorégulateur? Bon. Donc, il y a un réel problème, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'est un thymorégulateur. Bon, alors donc je vais commencer déjà par essayer de définir ce qu'est un thymorégulateur. À savoir que les premières définitions des thymorégulateurs, c'était des médicaments qui pouvaient agir sur l'une des phases de la maladie, la dépression ou l'excitation. Ça, c'était les toutes premières définitions, mais qui sont devenues obsolètes. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on peut traiter un état dépressif qu'on est thymorégulateur. Ce n'est pas parce qu'on peut traiter un état d'excitation maniaque qu'on est thymorégulateur. L'exemple typique, c'est que l'aldol qui va traiter un état d'excitation ne va pas être thymorégulateur, mais il traite l'état d'excitation. Donc cette première définition, on l'oublie, elle est très mauvaise. La deuxième définition, elle est intéressante parce qu'elle prend en considération le fait que c'est un médicament qui va agir sur une phase sans aggraver l'autre phase. Donc ça, c'est déjà une définition qui est plus intéressante. À savoir qu'on va avoir des médicaments qui vont être capables de traiter une excitation maniaque sans risquer de provoquer une dépression. Donc je vais donner l'exemple, par exemple, le dépakote ou le Zyprexa, qui tous les deux peuvent traiter un état, je dirais, d'excitation, mais qui ne vont pas provoquer de dépression. Donc cette définition pourrait être considérée comme une définition de premier niveau. Hein, vous avez votre premier niveau de thymorégulateurs qui sont des médicaments qui vont réguler ou qui vont traiter, je dirais, qui vont traiter une phase sans risquer d'aggraver son contraire. Donc là, c'est clair jusqu'à maintenant. Bon. On pourrait avoir un deuxième niveau. C'est-à-dire que ce sont des médicaments qui vont être capables de prévenir une phase sans risquer de provoquer la phase contraire. Donc c'est là, on est plus dans la dimension curative, mais on est dans la dimension préventive. Je donne l'exemple du Lamictal. Le Lamictal, aujourd'hui, est un médicament qu'on positionne comme un produit qui prévient les récidives dépressives. Bon. Ce médicament qui prévient les récidives dépressives ne présente pas de risque de provoquer un état d'excitation maniaque. Il n'a pas d'effet sur les états